VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 17h, temps universel. Bonsoir, bienvenue. La Guinée-Bissau sans gouvernement. Le pays vit une nouvelle crise après la dissolution de celui-ci par le président de la République suite à une mésentente au sommet de l'État. Correspondance à Bissau, Noua Mankali.
Le président de la République, José Mario Vaz, après son discours à la nation, a émis un décret présidentiel mettant fin au régime du premier ministre Domingos Simões Pereira. Aujourd'hui, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le mouvement national de la société civile à travers son président Jorge Gomes s'est lamenté de la position prise par le chef de l'État José Mario Vaz en mettant fin au régime de Domingos Simões Pereira. Pour le moment, tout est calme dans la capitale Bissau où le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, vainqueur des dernières élections présidentielles et législatives, a convoqué tous ses militants et sympathisants de sortir dans la rue pour assister au discours du président du PAIGC et ex-premier ministre Domingos Simões Pereira. Quant aux députés de la nation, ils proposent en ce moment de terminer avec le régime du chef de l'État avant qu'il ne soit tard. Il faut souligner que la situation politique semble être très tendue en ce moment en Guinée-Bissau, car nul ne peut imaginer ce qui peut arriver après. Vu la division du peuple bissau-guinéen sur cette situation très difficile qui sévit en Guinée-Bissau. Noua Mankali Bissau, VOA Afrique.
Au Cameroun, 10 personnes, dont 2 soldats du bataillon d'intervention rapide, le BII, une unité d'élite de l'armée camerounaise, ont été tués lors d'une attaque des insurgés islamistes nigériens de Boko Haram à Blam, une localité de l'extrême nord proche de la frontière avec le Nigeria, a-t-on appris aujourd'hui de sources sécuritaires. Le chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari a lui donné 3 mois à ses forces armées pour en finir avec les insurgés du groupe Boko Haram. Entré en fonction le 29 mai, M. Buhari a limogé à la Mégé les chefs de l'armée des terres, de l'air et de la marine, ainsi que le chef d'état-major des armées, avec l'objectif affiché de reprendre la main sur la lutte contre les insurgés qui ont multiplié les raids meurtriers et attentats suicides ces dernières semaines.
VOA Afrique en direct de Washington.
Arrestation hier soir à N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Selon un membre de l'Union nationale des étudiants du Tchad, la police les a appréhendés au cours d'une réunion où ils devaient mettre en œuvre la revendication de paiement de leur bourse d'études en votant le déclenchement d'une grève dans les universités du pays. Jacques Aristide.
La réunion regroupait tous les secrétaires généraux des sections provinciales du syndicat UNET arrivés dans la capitale tchadienne en vue de préparer cette grève. Une source policière tchadienne a confirmé à l'AFP l'arrestation de la trentaine d'étudiants qui ont été amenés dans les locaux de la police judiciaire. D'après les universités concernées, les étudiants réclament 6 à 9 mois d'arriérés de bourse. En mars, les écoles et universités de N'Djamena étaient restées fermées plusieurs jours à la suite d'une manifestation violente d'étudiants contre le port du casque obligatoire dont le prix avait augmenté. Et un mois plus tard, les enseignants des écoles et lycées publics de la capitale avaient également déclenché une grève pour dénoncer les retards de paiement de leurs salaires. Les membres de la société civile et de l'opposition demandent souvent au président Idriss Déby Itno d'utiliser la manne pétrolière pour améliorer les conditions de vie de la population.
En Égypte, la décapitation par le groupe État islamique d'un Croate travaillant pour une compagnie française fait redouter une désaffection des touristes et des investisseurs étrangers, mais renforce aussi l'Égypte dans le rôle qu'elle aime bien, celui de rempart contre le djihadisme. Eric Manirakiza.
Cette nouvelle atrocité pourrait notamment permettre de justifier la vente au régime d'Abdel Fattah al-Sissi de nombreux armements par certains pays occidentaux comme les États-Unis et la France. Ces pays ferment volontiers les yeux sur les violations massives des droits de l'homme en Égypte où le régime réprime d'une main de fer toute opposition. L'Égypte dispose de l'une des armées les mieux équipées de la région, surtout depuis que Washington a repris son financement et la livraison d'avions de combat F-16 et que la France lui a vendu 24 Rafales et une frégate multi-missions FREM. En attendant, la branche égyptienne de l'État islamique, qui se fait appeler province du Sinaï, semble avoir changé de stratégie. Après avoir tué soldats et policiers en représailles à la répression des partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi, elle semble faire comme l'État islamique en Syrie et en Irak, kidnapper et décapiter des Occidentaux. et effrayer ainsi les touristes, les compagnies occidentales présentes en Égypte.
Au Burundi, au moins 3 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi au cours de nouvelles violences à Bujumbura, indiqué la police. L'incident a eu lieu dans le même quartier où le général Adolphe Nshimirimana, homme fort de l'appareil sécuritaire, avait été tué le 2 août dans une attaque à la roquette. Il s'est déroulé à proximité d'un célèbre bar dont le général Nshimirimana était propriétaire et servant de QG aux militants CNDD-FDD. Il est 19h. 5 minutes à Bujumbura.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un tribunal militaire antiterroriste pakistanais a condamné à la peine capitale 6 hommes impliqués dans le raid des talibans contre une école de Peshawar. L'attaque avait fait plus de 150 morts en décembre, a annoncé aujourd'hui l'armée dans un communiqué. Dans la foulée de cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire moderne du Pakistan, le gouvernement d'Islamabad avait levé son moratoire sur la peine capitale en vigueur depuis 2008 et donné son feu vert à la création de nouveaux tribunaux antiterroristes militaires pour juger les civils. Bagdad est de nouveau le théâtre d'un attentat. Un camion bourré d'explosifs a explosé juste après l'aube dans un marché bondé de Sadr City, un quartier chiite de la capitale irakienne. Le point avec Morgan Guiriek.
Le bilan de cette dernière attaque s'élève à au moins 67 morts et des dizaines de blessés. Un carnage revendiqué par le groupe État islamique qui considère les chiites comme des hérétiques. Le groupe extrémiste sunnite s'est emparé d'une grande partie du territoire irakien en capitalisant sur la frustration des populations sunnites dirigées par un gouvernement majoritairement chiite. Les autorités irakiennes se battent donc aux côtés des milices chiites contre l'État islamique dans plusieurs provinces. Dans le même temps, une campagne américaine vise ces djihadistes, mais le chef de l'état-major américain met en garde. Les frappes aériennes ont fait de faibles progrès et le conflit semble être dans l'impasse. Washington devrait envisager d'envoyer des soldats américains aux côtés des forces irakiennes, estime ainsi le général Ray Odierno.
De gigantesques explosions dans la métropole portuaire de Tianjin, c'est dans l'est de la Chine, ont fait au moins 50 morts et plus de 700 blessés. Les déflagrations sont survenues hier, peu avant minuit, dans le nouveau quartier de Binhe, une vaste zone d'usines et d'entrepôts, l'un des principaux ports de Chine. Salwa Jafari.
Deux grosses explosions à quelques secondes d'intervalle. Les détonations étaient si puissantes que les riverains ont cru à un tremblement de terre, une boule de feu géante et des nuages de poussière. Binhe avait des allures d'apocalypse ce matin. Des rangées de voitures neuves calcinées, des conteneurs éparpillés. Un millier de pompiers a été déployé. Et puis, dans les hôpitaux, c'est toujours la panique générale. Au moins 50 morts, 700 blessés. Et le bilan est toujours provisoire. Les causes de ces détonations restent inconnues, mais les premiers éléments de l'enquête privilégient l'hypothèse de la négligence. La Chine est coutumière de ces catastrophes. L'été dernier, près de Shanghai, 75 personnes ont péri dans l'incendie d'une usine de pièces détachées.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exprimé ses inquiétudes dans un appel téléphonique à son homologue russe Sergueï Lavrov, et cela à propos du voyage cette dernière semaine en Russie du général iranien Qassem Soleimani, et ce en violation d'une résolution de l'ONU de 2007 qui lui interdit de voyager à l'étranger, a annoncé hier un diplomate américain. Le général Soleimani est responsable des gardiens de la révolution iranienne et chef de la force Quds chargée des opérations extérieures de l'armée d'élite du régime iranien. Et puis, sport pour terminer, coup de tonnerre dans la sélection brésilienne de football. Thiago Silva, défenseur central du Paris Saint-Germain et ex-capitaine du Brésil, n'a pas été convoqué par le sélectionneur Dunga pour les deux prochains matchs amicaux de la Seleção. Pour ces deux derniers matchs amicaux, avant d'entamer la campagne de qualification au Mondial 2018, la Seleção va affronter aux États-Unis le Costa Rica. Ce sera le 5 septembre à New Jersey et le 8 septembre les États-Unis, ce sera à Boston. Les Jeux Olympiques 2024, l'Amérique y pense toujours et le Comité Olympique américain s'attend à ce que Los Angeles fasse officiellement acte de candidature à l'organisation des Jeux Olympiques 2024, et cela après le retrait de Boston le mois dernier. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal, c'est seulement dans 20 minutes, ce sera Le Monde d'aujourd'hui. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.